Bonjour à chacun et à chacune. Le temps des vacances nous ramène ici aussi, en région. Nous profitons de l'arrivée aussi de nos petits-enfants qui sont avec nous. Ils sont arrivés tôt ce matin, donc eux, ils se reposent un petit peu. Mais c'est aussi la joie de pouvoir partager ensemble aussi ce moment dans la communion fraternelle. C'est vrai que ça fait des années que nous connaissons certains et certaines, des fois même 40 ans. Donc nous sommes un petit peu chez nous aussi ici. Et c'est vraiment l'occasion de pouvoir partager aussi la parole que le Seigneur a mise sur mon cœur ce matin pour vous. Je vous propose aussi de vous présenter les salutations de la commission de service et de référence dont je fais partie, de nos communautés Assemblées évangéliques de France. C'est en temps de vacances aussi, les uns ou les autres sont dispersés dans des camps, dans des séjours. Et donc, pensons aussi à ceux qui œuvrent aussi dans nos centres de vacances pour aussi ce temps. Quelques nouvelles aussi de notre famille d'église, d'abord de mon église de Saint-Maur en région parisienne, je apporte ses salutations, et puis de notre famille aussi d'église. Nous aurons aussi l'occasion à la rentrée en octobre de nous retrouver en tant que commission de service aussi pour, dans la région ouest, à tour de trimestre, nous visitons une des régions de France. Et c'est l'occasion aussi de prendre un peu de temps avec les églises de chacune de ces régions. L'objectif aujourd'hui essentiel est double, en fait. C'est la formation et l'implantation d'églises. C'est notre thème, en fait, des CAEF. Et dans la région sud, il va y avoir, à partir de la rentrée, une implantation qui va se démarrer dans la région d'Aix-en-Provence, avec Brad Dixon et Philippe Périlla en particulier. Donc il y aura ce pôle qui va s'activer aussi dans cette région aixoise. Et vous pouvez prier pour cela, pour que le Seigneur aussi donne à chacun aussi les moyens aussi de témoigner de la grâce du Seigneur comme il l'a fait pour chacun d'entre nous. Ce matin, je voudrais partager dans la parole de Dieu un texte dans le prophète Ésaïe. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le chapitre 40. Et on va se resituer un petit peu dans le contexte qui a permis à Ésaïe d'écrire ce chapitre en particulier. Ésaïe, fils d'Amoth, nous est-il dit au chapitre 1, verset 1, un judéen. Déjà, son nom est un message en soi, Ésaïe. C'est celui qui sauve, l'Éternel sauve. C'est la même racine que le nom de Josué ou de Jésus, en fait. Et Ésaïe a eu un très long ministère sous trois rois. Nous est dit le roi Ozias, qui est mort en 740 avant Jésus-Christ, et puis Jotham et Ahaz. Et puis enfin, Ézéchias. Et on pense aussi que Ésaïe a aussi exercé sous le règne aussi de Manassé, qui est le roi suivant, parce que le chapitre 11 des Hébreux, le verset 37 en particulier, nous parle de ces prophètes qui sont morts martyrs et dont un en particulier a été scié en deux. Et on pense qu'il s'agit d'Ésaïe, en fait. Sous ce règne de Manassé. J'y reviendrai tout à l'heure. Et donc, Ésaïe exerçait entre 740 et environ 680 avant Jésus-Christ. Il était contemporain de deux autres prophètes, Michée et Osée, qui eux ont prophétisé dans le royaume du Nord. Lui, Ésaïe, prophétisait dans le royaume de Juda. Alors, c'est facile de se rappeler la constitution de son livre. Vous savez combien il y a de chapitres ? Ésaïe. 66, hein ? c'est le même nombre que les livres de la Bible. Hein? Et son livre est divisé en deux parties, en fait. La première partie des chapitres 1 à 39. 39 chapitres, hein? C'est comme l'Ancien Testament, il y a 39 livres. Et puis la deuxième partie, 40 à 66, il y a 27 livres, c'est comme le Nouveau Testament. Donc c'est assez facile à se retrouver. Hein? La première partie est constituée l'essentiel des prédications d'Ésaïe sur le jugement et l'exil d'Israël. Chapitre 1 à 12, c'est les jugements sur Juda et Israël. Les suivants, 13 à 23, sur les nations. Et enfin, 24 à 35, sur les bouleversements à venir. Et puis un petit intermède historique concernant le roi Ézéchias. Et puis la deuxième partie est tout à fait différente. Elle est constituée en fait de ce qu'on appelle le livre de la consolation, ce que certains appellent le Nouveau Testament d'Ésaïe. Ce livre a été écrit donc sous ce règne de Manassé, ce règne terrible en fait de ce roi qui faisait passer même ses enfants par le feu, nous est-il dit, un roi idolâtre. Hein. Et c'est sous ce règne que sans doute Ésaïe a subi le martyre. Un roi, le pire des rois de Juda, qui a régné à peu près pendant une cinquantaine d'années. Et il semble que pendant ce temps, Ésaïe se soit retiré de la vie publique, parce que ses écrits vont vraiment changer. Il a un style littéraire beaucoup plus marqué. Et dans cette deuxième partie, elle est constituée de 3 fois 9 chapitres aussi. La première partie nous parle de la gloire du Dieu rédempteur, la deuxième de la gloire du serviteur souffrant, c'est là qu'on retrouve ce fameux chapitre 51 hein, d'Ésaïe, et 2 et 3 aussi, et puis les chapitres qui terminent son livre parlent de la gloire de Sion rachetée. Le texte sur lequel je vais me baser ce matin, fait la charnière entre ces deux parties en fait hein, et il introduit ce livre de la consolation et donc je vous invite à le lire avec moi, chapitre 40 versets 1 à 11. Réconfortez mon peuple, dit votre Dieu, oui, réconfortez-le et parlez au cœur de Jérusalem. Annoncez-lui que son temps de corvée est accompli, que son péché est expié, qu'elle a reçu de l'Éternel 2 fois le prix de ses péchés. On entend une voix qui crie, « Dans le désert, dégagez un chemin pour l'Éternel, nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu. Toute vallée sera relevée, toute montagne rabaissée, ainsi que toutes les collines. Les lieux accidentés se changeront en plaine, les rochers escarpés deviendront des vallées. Alors la gloire de l'Éternel sera manifestée, et les hommes le verront à la fois. » L'Éternel l'a promis. Une voix interpelle, « Va, proclame un message. » Et je réponds, « Que dois-je proclamer ? Que tout homme est pareil à l'herbe et toute gloire humaine comme la fleur des champs. Car l'herbe se dessèche et la fleur se flétrit quand le souffle de l'Éternel passe dessus. En vérité, les hommes sont pareils à de l'herbe. Oui, l'herbe se dessèche et la fleur se flétrit. Mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. Ô Sion, messagère d'une bonne nouvelle, gravis une haute montagne, crie avec force, Jérusalem, messagère d'une bonne nouvelle. Oui, crie sans crainte, annonce aux villes de Juda, voici, votre Dieu vient. Voici l'Éternel Dieu, il vient avec puissance et son bras lui assure la souveraineté. Voici, ses récompenses sont avec lui et le fruit de son œuvre va devant lui. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il rassemblera les agneaux dans ses bras, sur son sein il les porte et conduit doucement les brebis qui allaitent. » Alors le style de ce texte que nous venons de lire est très particulier, c'est un poème en fait. Et c'est dans ce poème en fait que l'on peut distinguer 4 strophes, les 4 parties de ce texte, avec un thème principal qui est au cœur de ce poème, le Seigneur vient. Voilà le message qu'annonce Ésaïe à son peuple. Le Seigneur va revenir, le Seigneur vient pour consoler son peuple, les versets 1 à 2. Le Seigneur vient pour préparer son chemin, pour préparer la venue du serviteur, du Seigneur, les versets 3 à 5. Le Seigneur vient alors, revêtez-vous du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu, versets 6 à 8. Le Seigneur vient, le salut est pour vous tous, c'est une bonne nouvelle à proclamer, et c'est les versets 9 à 11. Verset 1 à 2, « Réconfortez mon peuple, dit votre Dieu. Oui, réconfortez-le et parlez au cœur de Jérusalem. Annoncez-lui que son temps de corvée est accompli, que son péché est expié, qu'elle a reçu de l'Éternel deux fois le prix de ses péchés. » Ésaïe commence par réconforter son peuple. Le temps de l'exil pour le royaume de Juda n'est pas arrivé encore. Sans doute, celui du royaume du Nord, lui, est déjà venu. Et le peuple de Juda pouvait voir ce qui se passait. Peu parti, les 10 autres tribus avaient été dispersées par le royaume d'Assyrie. Et eux restaient encore là. Mais Isaïe avait annoncé que le peuple allait être dispersé, qu'il allait subir les affres des ennemis étrangers. Ésaïe, par ses paroles, veut réconforter son peuple du jugement de Dieu qui va venir. Il veut lui parler directement en disant que, effectivement, si le jugement vient, c'est que parce que le peuple a péché. Le peuple s'est éloigné de l'Éternel. Le peuple en particulier est idolâtre. Et c'est dans cette dernière partie du ministère d'Ésaïe, sous ce règne de Manassé, ce grand roi idolâtre, que prêche Ésaïe, que ses paroles sont écrites. Le temps du jugement va arriver, mais le temps de la grâce aussi. Le peuple va subir cet exil à Babylone en raison donc de sa désobéissance, mais il nous dit que ce temps est fini. Le péché est expié parce qu'il a reçu de l'Éternel deux fois le prix du péché. Le péché est expié par l'œuvre du serviteur. C'est tout le chapitre 53. Ésaïe annonce déjà ces paroles en disant que ce péché est expié et que, par une hyperbole, en disant que deux fois le prix du péché a été payé. L'Éternel lui-même a payé le double du prix qu'il fallait. Le châtiment est suffisant et amplement suffisant. Le temps de la grâce vient. Alors pour moi aujourd'hui, qu'est-ce que cela peut signifier? Le temps du jugement est terminé. Mon péché, le mien, est expié parce que quelqu'un a payé le prix pour moi, a payé le prix de mes fautes. Quel soulagement de savoir que je suis l'objet de la consolation de Dieu qui a donné son serviteur, son fils, en rançon pour moi, en rançon pour mon péché. Il n'y a pas de faute trop grande qui ne puisse être pardonnée, qui ne puisse être lavée par le sang du Seigneur, lavée par son sang qui a coulé à la croix. Et c'est cela que nous rappellent déjà ces deux premiers versets, la grâce et le salut en Jésus-Christ. Et puis, vient cette deuxième strophe. On entend une voix qui crie. dans le désert, dégager le chemin pour l'Éternel, niveler dans la steppe une route pour notre Dieu. Toute vallée sera relevée, toute montagne sera abaissée, et ainsi que toutes les collines et les lieux accidentés se changeront en plaine. Les rochers escarpés deviendront des vallées, alors la gloire de l'Éternel sera manifestée pour tous les hommes, et ils le verront. L'Éternel l'a promis. Vous remarquez que j'ai peut-être fait une coupure différente de celle que nous avons dans nos textes, parce que le texte hébreu ne fait pas la coupure là où nous l'avons ici. Nous avons, nous, deux points après dans le désert, mais le texte hébreu dit, on entend une voix qui crie, deux points, dans le désert, dégager un chemin pour l'Éternel. La séparation est importante, parce que c'est dans le désert que se rapporte la suite de cette préparation du chemin. Le Seigneur va venir dans le désert en personne pour prendre son peuple en charge. Et nous verrons tout à l'heure que le désert est l'image, en fait, d'Israël. Le Seigneur marche à la tête de son peuple. Il va conduire un nouvel exode, une nouvelle traversée au désert. C'est le livre d'Osée aussi qui nous en parle, au chapitre 2 et au verset 16. Il nous est dit ceci. « C'est pourquoi je vais la reconquérir, l'épouse, l'infidèle, Israël, la mener au désert et parler à son cœur. C'est là que je lui donnerai ses vignobles d'antan et la vallée d'Accor deviendra une porte d'espérance. Là, elle répondra tout comme au temps de sa jeunesse, au temps de sa sortie d'Égypte. Le temps du désert est le lieu et le temps où Dieu parle au cœur de son peuple. Il nous est dit que c'est là que Dieu va tracer une route nouvelle pour Dieu. Et cette route, nous la voyons un petit peu plus loin, un peu en avant, pardon, au chapitre 35. Ésaïe en parlait déjà, au verset 8, il nous disait ceci. « À travers le pays passera une route que l'on appellera la route sainte. Aucun impur n'y passera, car elle est réservée au seul peuple de Dieu qui la suivra. » C'est une route particulière, un chemin tout tracé par Dieu lui-même. Au chapitre 11 du même livre d'Ésaïe, au verset 11, c'était Emmanuel, Dieu avec nous, qui conduisait son peuple pour ce nouvel exode. Le Seigneur ici nous est-il dit que c'est lui-même qui le conduit. Il a prophétisé sur un premier exode du peuple, mais il parle aussi d'un deuxième exode auquel tout le peuple de Dieu participera. Un exode auquel lui-même montrera le chemin. Ce deuxième exode est dans les temps à venir. Il ne s'est pas encore réalisé pour nous qui sommes ici sur terre aujourd'hui. Cette image du désert, je disais, elle était l'image d'Israël. Le Seigneur va venir pour son peuple, mais celui-ci n'est pas en état de le recevoir. Il était sous le règne de Manassé. Il était dans l'idolâtrie. Mais Dieu veut quand même, au-delà du péché de son peuple, le consoler, le sauver. Mais le peuple n'est pas prêt de le recevoir. Alors, un chemin doit être préparé. Les obstacles doivent être ôtés, nous est-il dit ici au verset 4 de notre chapitre 40. Verset 4. Toute vallée sera relevée, toute montagne rabaissée, toute colline et tout lieu accidenté se changeront en plaine, les rochers escarpés deviendront des vallées. Les montagnes sont aussi une image de l'orgueil humain, de notre orgueil qui doit être abaissé pour laisser place à la foi, l'orgueil doit être abaissé pour que le Seigneur puisse aussi passer. Il faut aussi combler les ornières, adopter l'attitude que Dieu attend de son peuple. Il y a des hauts et des bas dans nos vies, hein, et le Seigneur est là pour niveler tout cela. Un messager va venir pour annoncer, pour préparer ce chemin, pour préparer la venue du Seigneur. Il est représenté par l'ange de l'Alliance, et c'est Malachie qui en parle au chapitre 3 et au verset 1. Il dit ceci: « Je vais envoyer mon messager pour aplanir la route devant vous. Et soudain, il viendra pour entrer dans son temple. Le Seigneur que vous attendez, c'est l'ange de l'Alliance appelé de vos vœux. Le voici, il arrive, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. » Quelqu'un va préparer le chemin du Seigneur, l'ange de l'Alliance, nous est-il dit ici, qui vient. Et le Nouveau Testament applique lui-même ce texte à la mission de Jean-Baptiste. Nous le voyons en Matthieu chapitre 3, verset 3 tout particulièrement. C'est Jean que le prophète Ésaïe a annoncé lorsqu'il a dit « On entend la voix de quelqu'un qui crie. Dans le désert, préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. » Jean le Baptiste, c'est lui qui prépare la nouvelle voie que Dieu veut pour son peuple, le nouveau chemin pour ce nouvel exode. Jean-Baptiste a préparé la venue du Seigneur par la prédication à la conversion qui abat tout orgueil, les montagnes, et qui comble toutes les lacunes, les vallons. Le Nouveau Testament confirme donc que le désert est Israël qui doit se convertir et changer pour se préparer à la venue du Seigneur. Ça, c'était le ministère de Jean-Baptiste. C'était l'annonce du nouveau chemin pour le peuple d'Israël. Mais pour moi aujourd'hui, que me dit ce texte? Quelles sont les montagnes qui, dans ma vie, font obstacle à la venue complète et entière du Seigneur? Quels sont les trous qu'il faut peut-être boucher? Les ornières qu'il faut peut-être combler? Les cailloux qu'il faut peut-être enlever pour que je ne me fasse pas trop mal. Demandons au Seigneur d'aplanir lui-même nos voies. C'est ce que le psalmiste faisait lui-même au psaume 5 et au verset 9. Il disait ceci: « Éternel, conduis-moi, toi qui es juste, car j'ai des ennemis. Aplanis le sentier que tu veux que j'emprunte. » Et le livre des Proverbes nous dit ceci au chapitre 3, verset 5: « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence ou sur ton orgueil. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. » C'est le Seigneur lui-même qui peut faire cette œuvre de nivellement, cette œuvre qui permet que notre voie puisse être aplani, puisse être sans trou, sans bosse. Si la vie nous a réservé des trous et des bosses, le Seigneur lui-même peut les combler, peut les aplanir et nous conduire en nous tenant par sa main et par sa grâce. Et puis, verset 5, une promesse accompagne l'appel à la conversion. La gloire de l'Éternel sera manifestée et tous les hommes le verront à la fois. L'Éternel l'a promis. Dieu va se révéler et se faire connaître. La gloire de l'Éternel est venue chez les siens et nous l'avons contemplée, dit Jean, chapitre 1, verset 14. Et les hommes Les hommes verront le salut de Dieu en Jésus-Christ, annoncé par Jean-Baptiste lui-même. Et c'est Luc qui reprend ce texte au chapitre 3 de son évangile et au verset 2. Il nous dit ceci. Deuxième partie du verset. Dieu confia son message à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Jean se mit à parcourir toute la région du Jourdain. Il disait, « Faites-vous baptiser pour montrer que vous changez de vie, et Dieu pardonnera vos péchés. » Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait écrit dans son livre. On entend la voix de quelqu'un qui crie, « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers droits. » Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline sera abaissée. Les voies tortueuses deviendront droites, les chemins rocailleux seront nivelés, et tous les hommes verront le salut de Dieu. Troisième strophe de notre poème. Une voix interpelle, verset 6, « Va, proclame un message. » Et un autre lui répond, « Que dois-je proclamer ? » Ésaïe reçoit un message qu'il doit proclamer. Une voix interpelle, « Va, proclame ce que je veux te dire. » Et Ésaïe est là, tout tremblant, « Que dois-je proclamer ?» Cela ne vous rappelle-t-il pas la révélation que Ésaïe a eue de Dieu lui-même au chapitre 6, son appel. Qui enverrai-je ? Dit Dieu. Ésaïe se lève et dit, me voici, envoie-moi. Il était tout jeune à ce moment-là, c'était au début de son ministère, tout jeune et tout tremblant. Mais il y avait cette conviction que Dieu l'appelait. L'appelait à être son porte-parole. Alors il s'est levé, il dit, envoie-moi. Et là, il renouvelle un peu, plus tard, beaucoup plus tard, dans l'exercice de son ministère, il montre cette même dépendance à l'Éternel. Dieu parle, et il écoute, et il répond, que dois-je proclamer ? Et Dieu lui révèle la parole qu'il doit annoncer. L'Éternel souligne la fragilité de l'être humain, un être sans consistance propre, périssable comme l'herbe ou la fleur des champs. Et puis, pour bien montrer que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes, il va le répéter deux fois. Deux fois entrecoupées par une parole. Une parole au verset 8. Le souffle de l'Éternel passe dessus, passe sur nous, sur ces fleurs des champs, sur cette herbe qui se flétrit. Le terme qui est utilisé ici, en hébreu, c'est le terme « roua », qui a plusieurs significations, qui signifie à la fois le vent, la parole, mais aussi l'esprit. Ces différents sens sont présents dans ce mot. Et le prophète joue avec cela, Derrière le vent, il y a l'image du souffle qui évoque l'action divine et son esprit qui vient habiter en l'homme et prendre toute la place. Alors si nous laissons l'esprit de l'Éternel venir habiter en nous, prendre toute la place comme il le souhaite, on ne peut que être cet être qui flétrit, qui se laisse prendre pour que l'Éternel puisse puisse prendre toute la place. Puisqu'au travers de moi, sa parole, l'Évangile, puisse communiquer la vie. C'est ce que l'apôtre Pierre nous rappelle dans sa première lettre, au chapitre 1 et au verset 24. Il écrit ceci, Pierre, en citant notre texte, « Tout homme est comme l'herbe des champs, toute gloire humaine comme la fleur des champs. L'herbe sèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. » Oui, dit Pierre, cette parole, c'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Alors, pour moi-même, suis-je prêt à être cette fleur qui flétrit pour que le Seigneur puisse manifester sa gloire en moi? Suis-je prêt à lui laisser toute la place? Suis-je prêt à ce que tout mon être lui appartienne? Est-ce que je suis prêt à ce que tout mon corps soit le temple du Saint-Esprit, la demeure du Seigneur? Est-ce que je garde encore des petits recoins dans lesquels je ne veux pas qu'il ait l'œil ou qu'il puisse venir me dire « c'est peut-être pas juste ce petit recoin ». Prions que le Seigneur nous donne cet état d'esprit, que le vent de sa parole puisse souffler dans nos vies et par là même souffler par nos bouches. C'est la suite qui va nous amener à cela aussi. Verset 9, « Ô Sion, messagère d'une bonne nouvelle !» On retrouve le terme « la bonne nouvelle » que Pierre citait tout à l'heure. « Messagère d'une bonne nouvelle, gravis une haute montagne, crie avec force, Jérusalem, messagère d'une bonne nouvelle. Oui, crie sans crainte, annonce aux villes de Juda, voici votre Dieu, vient. Voici l'Éternel Dieu, il vient avec puissance et son bras lui assure la souveraineté. » Voici ses récompenses sont avec lui, le fruit de son œuvre va devant lui. Voilà le cœur de notre poème ici. Alors nous, en français, je dirais la pointe d'un poème, elle est à la fin. Les fables de La Fontaine, la morale, elle est à la fin généralement. En hébreu, c'est construit un peu différemment. Il faut le chercher plutôt au milieu. Et le centre ici de ce poème, il est là. Voici votre Dieu, vient. Il vient avec puissance et son bras lui assure la souveraineté. Voilà le message, le cœur du message d'Ésaïe. Et si on n'a pas compris que c'était ça le message d'Ésaïe, on ne comprend pas le texte du prophète lui-même. Tout le message d'Ésaïe est basé sur cette parole. Le Seigneur vient. Il vient pour son peuple, pour le sauver et pour l'amener dans ce qu'on verra tout à l'heure, la Jérusalem céleste. Mais cette quatrième strophe invite d'abord Jérusalem, donc le peuple d'Israël ici, à publier l'annonce du salut à toutes les villes de Juda. Et Jérusalem ici est personnifiée comme la messagère d'une nouvelle. La traduction des Septante avait rendu le terme ici par le mot euagelion, e qui veut dire bonne et agelion nouvelle. La nouvelle, elle n'était pas forcément bonne ou mauvaise, ce que l'annonçait le prophète, mais ici elle est connotée de cette bonne nouvelle, de cette euagelion qui a donné en français le mot évangile, qui a donné notre mot évangile aussi pour la suite. Et c'est ce même mot que reprend Paul quand il cite le texte d'Ésaïe. Il utilise le même terme que celui qui est ici dans ce verset. C'est la première fois dans l'Ancien Testament que le terme évangile, si vous voulez, est proclamé. Et donc il est dans ce cette introduction de cette deuxième partie qu'on appelle le cinquième, ou que certains appellent le cinquième évangile, hein, d'Ésaïe. Parce qu'il nous parle effectivement du Seigneur et du serviteur et de son sacrifice. Le contexte ici indique qu'il s'agit de la nouvelle du salut. Et c'est ce sens que le Nouveau Testament gardera. La proclamation qui est annoncée. Voici, votre Dieu vient avec puissance, à main forte et à bras tendus. Hein. Ces symboles aussi sont symboles de force et de puissance, hein, qu'on retrouve souvent dans l'Ancien Testament. Cette action, elle sera fructueuse. Les récompenses seront avec l'Éternel, le fruit de son œuvre sera devant lui, nous est-il dit. Et puis pour conclure cette strophe, le prophète va utiliser une image. Comme un berger, il paîtra son troupeau et il rassemblera les agneaux dans ses bras. Sur son sein, il les porte et conduit doucement les brebis qui allaitent. Il va terminer par des paroles de consolation. Il avait commencé par ces paroles de consolation. « Réconfortez mon peuple, dit votre Dieu, réconfortez-le. » Et il va le terminer en prenant cette image du berger. Alors cette image est une image que Ésaïe connaît bien, qui avait été reprise de Michée, chapitre 2, verset 12, chapitre 4 ou chapitre 7. Hein, on retrouve la même image du berger. Cette image dit toute la sollicitude de Dieu pour son peuple. Il paie son troupeau et pourvoit aux besoins de son peuple. Il s'occupe des plus fragiles et ne désire pas qu'un seul d'entre eux périsse ou se perde. Il prend vraiment soin de toutes ses brebis, même de celles qui sont perdues. Rappelez-vous que le Seigneur s'est octroyé pour lui-même cette image du berger. Jean chapitre 10. Je suis la porte où passent les brebis. Et puis, au verset 11, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et il reprend au verset 14 encore, je suis le bon berger. Je connais mes brebis me connaissent. Tout comme le Père me connaît et que je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Le Seigneur est le berger. Est-ce que je suis prêt à crier aussi avec force et sans crainte cette bonne nouvelle, cet évangile, cette parole de salut, et proclamer que mon Sauveur revient bientôt? Ça, c'est mon témoignage auprès de ceux et celles qui m'entourent, de mes familles, de mes amis, de mes collègues. Saisissons toute occasion pour annoncer cette bonne nouvelle du salut à ceux qui ne la connaissent pas. Et puis, cette parole d'espérance qu'Ésaïe nous donne aussi. Le Seigneur va revenir et il me prendra avec lui pour ce grand exode vers la nouvelle Jérusalem, vers ces lieux où nous serons éternellement avec lui, dans sa présence. C'est vrai qu'il est avec nous ce matin, mais pas de manière visible. Mais un jour, nous serons avec lui et nous le verrons tel qu'il est, dans sa gloire, et nous règnerons avec lui jusqu'à la fin des temps. Voilà la promesse aussi que annonce Ésaïe. Alors est-ce que ceux et celles qui sont ici veulent tous faire partie de ce troupeau, faire partie des... être l'objet de ses soins attentifs, en attendant l'espérance bienheureuse de son retour en gloire. Je disais tout à l'heure que la vie nous réserve des creux et des bosses. Et parfois nous sommes fatigués, chargés sur le chemin de la vie. Mais le Seigneur nous a dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Posons nos fardeaux au pied de sa croix. Acceptons ses tendres bras pour qu'il nous conduise doucement, comme ces brebis qui allaitent, ces brebis fragiles, vers la demeure éternelle du Père, le royaume de Dieu, la nouvelle Jérusalem, où Jésus est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fera reposer dans de verts pâturages. Sa houlette et son bâton me rassurent. Si je dois traverser la vallée de l'ombre de la mort, il est là. Il me tient par la main. Il m'accompagne jour après jour, instant après instant, jusque dans l'éternité et dans sa gloire. Prions. Seigneur, tu nous rappelles par ces paroles d'Ésaïe que tu consoles, tu exhortes, tu édifies et tu encourages. Et par là même, tu nous montres qu'Ésaïe est un prophète, selon ce que Paul nous donnait comme définition. Merci parce que tu es toi-même celui qui nous console, celui qui nous encourage, celui qui nous fortifie. Celui qui nous garde aussi en toutes circonstances. Et Seigneur, nous voulons te redire notre confiance que nous avons en toi. Si parfois nous trébuchons sur le chemin, si parfois nous heurtons cailloux, ou tombons dans des trous, ou nous cognons sur des montagnes, Seigneur, tu es là pour aplanir nos sentiers, aplanir notre route. Et nous voulons te faire confiance, Seigneur, parce que c'est toi seul qui peux aplanir toute chose dans notre vie. Seigneur, nous voulons nous placer ce matin encore au pied de ta croix et nous décharger de tout ce qui peut nous peser ce matin encore. Et te dire, Seigneur, oui, viens, prends tout. Prends tout et décharge-nous, Seigneur. Nous voulons nous décharger aussi, faire cet acte de volonté, de poser nos poids au pied de ta croix et nous laisser revêtir de ta grâce, de ton amour, nous laisser prendre dans tes bras comme ces brebis qui allaitent et nous laisser conduire dans les voies que tu as toi-même préparées pour chacun d'entre nous. Seigneur, merci pour ces paroles d'encouragement, de consolation et de grâce aussi que tu nous donnes par ton prophète. Merci parce que c'est toi qui inspires cette parole est vraie et elle est valable aussi pour nous aujourd'hui. Nous voulons nous en saisir et la faire nôtre encore ce matin. Seigneur, conduis mes frères et sœurs dans cette journée, dans cette semaine qui vient, qu'ils puissent aussi se remémorer ces paroles, les prendre aussi pour eux-mêmes et qu'elles puissent être des sujets d'encouragement et de joie aussi pour eux. Je t'en prie au nom du Seigneur Jésus et pour ta gloire. Amen.